Avec votre revue de presse internationale. Bonjour Catherine Dutu.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous.
Et à la une ce matin, le Soudan qui subit l'une des pires catastrophes humanitaires de l'histoire récente, alerte l'ONU.
La famine menace le troisième plus grand pays d'Afrique et les survivants de la guerre civile sont traumatisés par les meurtres et les viols, raconte la BBC et le Wall Street Journal, qui craignent aussi pour le Darfour une répétition de ce que les États-Unis avaient qualifié de génocide il y a 20 ans. La BBC tout d'abord a réussi à se rendre sous haute surveillance militaire à Omdurman, ville de 2,5 millions d'habitants, reprise à la mi-février par l'armée soudanaise. Elle est située sur le Nil, en face de la capitale Khartoum. Son cœur était autrefois très animé, indique la BBC. Il est aujourd'hui déserté à cause des combats qui font rage depuis avril 2023 entre l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan et les forces de soutien rapide des paramilitaires du général Daglo, ancien numéro 2 du pouvoir. Ces combats ont fait au moins 14 000 morts au Soudan, estime la BBC, plus de 8 millions de déplacés, alors qu'on va bientôt entrer dans la deuxième année de ce conflit oublié, déplore la Deutsche Welle, la radio internationale allemande. Les paramilitaires ont pillé les maisons, volé des voitures, battu tout le monde, même les femmes et les personnes âgées, raconte un habitant d'Omdurman à la BBC. Les gens sont morts de faim, dit-il. J'ai sorti certains d'entre eux de leur maison pour que les corps ne pourrissent pas à l'intérieur. Les forces de soutien rapide menaçaient les jeunes filles innocentes, confie pudiquement une femme d'une cinquantaine d'années, référence voilée aux violences sexuelles, un sujet tabou au Soudan, explique la BBC. Les témoignages deviennent plus explicites. Loin de la ville d'Omdurman, plus de 1000 km à l'ouest, dans les camps de réfugiés tentaculaires situés de l'autre côté de la frontière soudanaise, au Tchad. Une jeune femme de 19 ans demande un avortement dans une clinique de Médecins sans frontières. Phrase hésitante, elle finit par raconter à la BBC comment elle a été violée par plusieurs miliciens des forces de soutien rapide. Recrudescence des attaques à caractère ethnique au Darfour contre la population noire africaine, précise la BBC et le Wall Street Journal. C'est ce qu'a entraîné la domination croissante des paramilitaires des forces de soutien rapide, soutenues par des milices arabes, 20 ans après donc cette mobilisation de personnalités comme les acteurs américains George Clooney et Don Cheadle, qui avaient demandé la reconnaissance d'un génocide au Darfour, une région riche en minerais de la taille de l'Espagne, rappelle le Wall Street Journal, où les mines d'or ont même attiré les milices russes de Wagner. Les groupes humanitaires affirment aujourd'hui ne plus avoir assez de fonds pour aider les réfugiés qui affluent vers le Tchad ou le Soudan du Sud, parmi les pays les plus pauvres de la planète. Les camps de fortune, parfois construits dans le sable du désert du Sahel, indique le Wall Street Journal, manquent d'eau, de toilettes, de tentes pour subvenir aux besoins de plus d'un million de réfugiés, la plupart des femmes et des enfants. Celles et ceux qui pouvaient fuir le Soudan l'ont fait, conclut la BBC. Mais les combats perdurent, tout comme la faim et les maladies. Beaucoup de gens au Soudan se demandent ce qui restera lorsque l'un des camps militaires criera victoire.
Direction Cuba à présent, où le président a fait hier ses débuts sur YouTube.
Une émission d'une heure, desde la presidencia, depuis la présidence. L'ennemi ne veut pas régler les problèmes de Cuba, a déclaré le président Miguel Díaz-Canel, qui accuse les États-Unis d'être à l'origine des coupures de courant sur l'île, rapporte El Periodico Cubano. Washington oblige, selon le président cubain, les entreprises internationales à ne pas vendre de carburant au régime castriste. Cuba est victime de persécutions énergétiques, selon Miguel Díaz-Canel, manière de se défendre après les manifestations contre le manque d'électricité et la pénurie de nourriture. Contestation partie dimanche de Santiago de Cuba, deuxième ville du pays, avec des centaines de personnes dans la rue, avant de s'étendre à Bayamo et Holguín, deux autres villes de l'est de Cuba, indique le Havana Times. C'est le plus grand mouvement de contestation depuis l'été 2021, explique El País et la RTB, la radio-télévision publique espagnole.
Cuba se encuentra en una situación crítica. Escasean los alimentos, apenas hay gasolina y se registran continuos cortes de electricidad.
Cuba est dans une situation critique. La nourriture se fait rare, il n'y a presque plus d'essence et les coupures d'électricité sont permanentes. C'est trop, même pour une société habituée aux privations, expliquait hier la RTBE. Certains se résignent, d'autres préfèrent descendre dans la rue et crier « Liberté ». Pour l'instant, explique la RTBE, nous voyons des centaines, voire des milliers de Cubains qui osent manifester, mais il est encore trop tôt pour savoir si la contestation va durer. Les manifestations, depuis dimanche, n'ont pas été durement réprimées, note le Havana Times, comme en juillet 2021. Ce serait presque une erreur, selon El Periódico Cubano, car l'attitude du régime cubain, qui voit dans la protestation un exercice de pleine démocratie socialiste, pourrait être interprétée comme un signe de faiblesse, un début de concession face aux manifestants. Alors, pas question d'aller trop loin non plus. Le média cubain en exil, 14 y Medio, nous apprend que dans un petit village situé près de Sancti Spiritus, dans le centre de Cuba, une femme avait peint sa façade en bleu avec des messages contre le régime castriste, abat la dictature, plus de coupure de courant ni de faim. Cette jeune femme a reçu la visite d'un agent de la sécurité de l'État, la forçant à enlever ses slogans anti-gouvernement.
Et puis on termine, Catherine, avec le gouvernement américain qui a décidé d'attaquer Apple en justice.
Un pour pratique monopolistique liée à l'iPhone et aux contraintes fixées par le groupe californien aux développeurs d'applications. C'est un énorme dossier, estime le Washington Post, qui implique le ministère de la Justice américain et 16 procureurs généraux d'État et de district. Ils accusent la marque à la pomme d'avoir étouffé la concurrence et limité le choix des consommateurs, précise le Financial Times, alors que le procureur général des États-Unis a fait remarquer hier que le revenu net d'Apple s'élevait à 97 milliards de dollars l'an dernier, c'est plus que le PIB d'une centaine de pays. Ce procès menace ce que nous sommes, a répondu Apple. Et le Wall Street Journal rappelle que le groupe a déjà réussi à éteindre d'autres contestations en justice en expliquant que son écosystème fermé était plus sûr et meilleur pour les utilisateurs. Les géants américains du numérique Apple, Meta et Google, propriété d'Alphabet, vont par ailleurs faire l'objet de premières enquêtes au sein de l'Union européenne, affirme l'agence économique Bloomberg, pour savoir s'ils respectent le nouveau règlement sur les marchés numériques, le Digital Markets Act.